Une des personnes les plus intéressantes, dans mon opinion à moi, là, dans le monde du sport. Je le lis, je le suis sur Twitter. J'aime échanger avec lui. Et tous les jours, Ray aime partager des faits très intéressants de l'expérience client, de les différentes initiatives que les équipes, que certaines formations professionnelles prennent pour justement améliorer l'expérience à leur stade, l'expérience des partisans. Ray en connaît quelque chose, hein, ayant été à la barre de beaucoup de ceux-ci dans les grosses années du Canadien, on peut dire. Là. Alors Ray est là, on le retrouve à Chicago. Salut Ray!
Bonsoir Derek!
Alors, Ray, je vais commencer parce que j'ai fait un teaser tantôt sur l'histoire de parc de chiens des Jaguars de Jacksonville. Puis je veux juste que vraiment parler de ça brièvement parce que c'est une autre initiative. On a vu plusieurs équipes sportives un peu emboîter le pas dans les dernières années où les gens pouvaient amener le meilleur ami de l'homme. Il y avait des journées spéciales où tu pouvais amener ton chien. Il y avait une place là pour donner un bain à ton chien. Il y avait du monde pour couper les poils des chiens et tout ça. Mais là, les Jaguars de Jacksonville, eux, vont placer un parc de chiens en permanence que les gens qui vont au match peuvent amener le chien.
Oui, ils peuvent l'amener, ils peuvent le laisser là durant le match, évidemment. Aller se divertir pendant un match de football de la NFL et revenir récupérer le chien au retour à la maison. Encore une fois, une initiative que je trouve très innovatrice. Écoute, j'ai lu quelque chose il n'y a pas deux semaines concernant la première du film Isle of Dogs, et les gens avaient l'occasion d'emmener leur chien au cinéma. Une autre tentative pour convaincre les gens qu'on pense à eux, qu'on a besoin d'eux comme consommateurs. Alors, les Jaguars font tout simplement un effort de plus pour se rapprocher de leur clientèle. On sait tous que les Jaguars, Jacksonville, c'est pas une ville facile. Ils ont eu une équipe très compétitive l'année dernière, Derek, mais parmi toutes les équipes de la NFL, les 32, je te dirais que c'est peut-être l'équipe qui a le moins de suivi national aux États-Unis. Les gens ne sont pas très intéressés aux Jaguars. C'est ce qui explique aussi pourquoi ils jouent un ou deux matchs par année à Londres, des matchs locaux qu'ils vont jouer là-bas, parce qu'ils ont besoin de limiter le nombre de matchs à domicile et aussi augmenter un peu leur visibilité. Alors, c'est tout dans l'effort de se rapprocher de leur clientèle, de faire des choses que les gens apprécient fondamentalement. On peut l'appeler l'expérience des partisans, on peut l'appeler l'expérience de divertissement. À la fin, c'est une business de consommation et les gens ont des choix à faire. Et les équipes, s'ils veulent garder leurs partisans près d'eux, surtout pour les matchs en direct, en personne, ben ils doivent en faire plus parce que l'occasion de regarder, d'apprécier un match à la télé est certainement aussi bonne et ça demande moins d'argent et moins de déplacements.
On voit beaucoup, justement, les assistances dans les ligues sont à la baisse dans les grandes ligues en Amérique du Nord. On a beaucoup d'équipes qui tentent. On est dépassé simplement la soirée bobblehead ou la soirée de la casquette ou du calendrier ou de la boîte à lunch. Là, on est rendu à un autre niveau. On a parlé, toi et moi, un petit peu plus tôt cette saison. Tu étais très heureux de voir les Orioles de Baltimore qui, eux, décidaient que tous les partisans qui n'avaient pas 9 ans, donc 9 ans et moins, eux, toute la saison, c'était gratuit pour eux de venir au stade. Tu avais vraiment applaudi cette initiative-là. Est-ce qu'il y a d'autres initiatives, Ray, que tu as entendu parler dernièrement qui t'ont allumé?
Bien, les Orioles, ce qu'ils ont fait, Derek, c'est qu'ils ont ouvert la porte grande ouverte pour les jeunes consommateurs, les jeunes fans, les jeunes joueurs de baseball. Alors, ils sont en train de se bâtir une clientèle d'avenir parce que ces jeunes-là vont emmener un parent. Ils vont dépenser de l'argent de toute façon. Et à 9 ans, là, tu peux tomber en amour avec ton équipe. Ça peut être l'équipe de ta vie. Exact. C'est pour ça que les équipes doivent penser comme ça. Alors, l'autre qui m'a beaucoup impressionné cette année, c'est les Falcons d'Atlanta, dans leur nouveau stade Mercedes-Benz, à leur deuxième saison. Alors, le propriétaire, Arthur Blank, a décidé, lui, qu'il allait revenir dans le passé au niveau des prix de consommation d'aliments, de boissons et de concessions alimentaires. Alors, ça s'appelle « Fans First ». Finalement, c'était des prix à 3 $, 4 $, 5 $, plutôt que qu'est-ce qu'on est habitué de voir aujourd'hui, 9, 10, 12, 15 $ pour des consommations. Il a décidé que ça valait la peine pour lui de laisser tomber sa marge de profit en augmentant le volume des gens qui assistent au match et qui consomment, parce que de toute façon, le volume va effacer la perte
ben
en
oui.
marque.
Ben oui.
Mais de toute façon, pour une équipe de la NFL, comme tu le sais, Derek, faire 100 000, 200 000, 500 000 $ de plus par match à vendre des concessions alimentaires, c'est rien qu'une goutte dans l'océan des revenus d'une équipe de la NFL. Alors, il n'y a même pas besoin de s'inquiéter. Mais ce que ça fait, c'est que ça donne aux partisans le sentiment que l'équipe est généreuse, que l'équipe est abordable, que l'équipe est accessible pour ses partisans, parce que ils ne veulent pas non plus se mettre à un prix que les gens ne peuvent plus y aller. Et ça, c'est la ligne qui est toujours imaginaire, mais elle existe pour toutes les équipes. Quand on commence à charger trop cher, puis que la soirée pour deux personnes commence à coûter 300, 400, 500 $ à un moment donné, les gens vont se dire, tu sais quoi, c'est moins cher, je ne peux plus aller au hockey, au baseball, au football de la même façon, à la même fréquence, je reste à la maison. Et c'est là que les équipes souffrent.
Hey Ray, je vais te parler quelque chose de positif et ça c'est une équipe en série comme les Golden Knights de Las Vegas. Parle-moi de ce que ça représente là, chaque ronde, chaque fois qu'une équipe avance au prochain tour en termes de produits dérivés, en termes de vente de chandails, de casquettes, de fanions, etc. C'est quelque chose de vraiment rentable pour les équipes lorsque tu avances en série.
Oui, Derek, tu as raison. Je pourrais te dire approximativement, là, je vais te donner un chiffre. Quand une équipe vend 5 $ per capita, ça veut dire par personne, en saison régulière, c'est une équipe qui se classe généralement parmi les 10 premières de la Ligue nationale de hockey. 5 $ par personne. Ça veut dire que si tu as 21 000 spectateurs, ben, tu as vendu à peu près 100 000 $
Okay.
Tu comprends-tu que tu as 5 $ par personne. Quand tu vends en série, là, à cause de la rareté des matchs, il y en a très peu, à cause du fait qu'il y a un enjeu si important match par match, le chiffre va facilement doubler en série.
Ah.
À chaque fois que tu vas dans une ronde de plus, tu te retrouves dans une situation où le chiffre est rendu maintenant 10, 11, 12 $ par match. Et en finale de la Coupe Stanley, pas besoin de dire que les gens sont prêts à tout dépenser. Alors, c'est là que les chandails se vendent. Ils oublient que ça coûte 250, 300 $ par chandail. Ils achètent parce que leur équipe est rarement en série comme ça. Et c'est le cas pour les Golden Knights de Vegas.
C'est très cool. Ils vont en vendre du stock, puis en tout cas, c'est une belle histoire. C'est une belle histoire à suivre. Ray, toujours un plaisir de se parler. Merci beaucoup pour ton temps ce soir. Ça a passé trop vite encore une fois.
Merci, Derek. Bonne soirée à toi.
Salut. Bye-bye. Jérémy Filosa sera là au retour. On va parler du général Laurent Simon de retour en ville. L'Impact demain, 13h.